Merci beaucoup. On va dérouler une présentation qui résume un petit peu le travail qu'on a fait. On essaiera de pas trop s'attarder parce qu'on a eu l'occasion de mener un travail qui était aussi assez calculatoire et on va pas non plus vous barber de calcul. Mais globalement, on voudrait revenir un petit peu sur l'actualité. On a vu effectivement que les marques, s'il y a besoin de le rappeler, sont au centre de l'actualité, alors en bien ou en moins bien. On se souvient de la crise qui a affecté BP. Je pense qu'on va en entendre parler longtemps et son image aura du mal à s'en remettre. On sait que Toyota a eu du mal à se remettre de la crise qui a touché ses véhicules. Et je parle bien de crise, une crise d'image. Les pays ne sont pas épargnés. La France, tout le monde se souvient de la guerre en Irak. Lors des événements, il a suffi par exemple que Nicolas Sarkozy rencontre le Dalai Lama pour déclencher une vague anti-française en Chine, qui a eu aussi des impacts économiques. Partie des centres Carrefour ont été boycottés, alors certains diront pendant quelques jours, néanmoins, il est difficile d'évaluer les impacts à long terme. Et puis, récemment, je pense, on ne mesure pas encore, mais il va y avoir un impact de ce qui est en train d'arriver à l'Irlande, la crise économique qui est en train de frapper l'Irlande, la perte de confiance dans le modèle irlandais, on risque de pouvoir le mesurer à long terme. Alors, on s'est intéressé à un sujet, la marque France, qui globalement nous a un peu laissé perplexes au début. Déjà, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler d'une marque ? Et si on peut parler d'une marque, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dupliquer du modèle de ce que les entreprises utilisent, hein ? Comment elles utilisent la marque ? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer à un pays comme la France ? Et on a vu effectivement que la marque France, comme pour une marque d'entreprise, une marque commerciale, elle est créatrice de valeur. Alors à partir du moment où on parle de création de valeur, il n'en fallait pas plus pour nous donner envie de faire des calculs. Et donc on s'est amusé à se dire combien ça vaut finalement ? Alors se demander combien ça vaut, la marque France, ça a eu deux objectifs. Le premier, c'est déjà de montrer que c'était important. Parce qu'on est arrivé à un chiffre qui avait pas mal de zéros. Et puis le deuxième objectif, en essayant de calculer combien valait la marque France, on a fait apparaître en fait les mécanismes, qu'est-ce qui pilote la création de valeur créée par la marque France. Cette méthode de valorisation, elle nous a permis de faire un état des lieux qu'on essaiera de vous présenter. Et on a comparé cet état des lieux avec une analyse des tendances. Parce que finalement, bon, c'est bien gentil de faire un état des lieux, de dire à l'instant T qu'est-ce que vaut la marque France, où est-ce qu'on crée de la valeur. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de se dire où va le monde. Et armée de cette marque, comment est-ce que la France s'apprête à affronter la mondialisation et les tendances dans lesquelles les entreprises françaises, les acteurs français s'inscrivent. Donc je vais laisser Maxime présenter globalement un plan en trois parties. Déjà revenir sur qu'est-ce qu'une approche de marque pour un pays, pourquoi on a le droit de parler de marque pour un pays, pourquoi on pense qu'on peut parler de marque pour un pays. Derrière, on vous présentera ce qu'on a fait apparaître dans notre calcul, et puis quelques éléments de stratégie, quelques propositions de stratégie de marque pour la France.
Voilà, dans un premier temps, on va revenir assez rapidement sur finalement qu'est-ce que c'est qu'une marque, pour se demander est-ce qu'on peut appliquer ce concept de marque qui marche aussi bien pour les entreprises à un pays, et quelles sont les limites de ce modèle, essayer d'arriver finalement à un modèle qui soit exploitable, c'est-à-dire utilisable pour une stratégie que nous allons détailler un peu plus tard. Donc on revient rapidement, quel est l'intérêt d'une marque de manière générale pour une entreprise ? C'est tout simplement une assurance d'un profit futur et une réduction du risque de l'entreprise par rapport à ses différentes interfaces. Par exemple, une marque commerciale, c'est une réduction du risque par rapport à ses clients, parce qu'un client qui a confiance en une marque, il va être fidèle à ses produits, donc il va y revenir facilement, il va lui faire confiance pour acheter de nouvelles gammes de produits par rapport à une marque qu'il ne connaît pas. Donc déjà, pour la marque, c'est un lien supplémentaire avec les clients, et le client va être prêt éventuellement à payer un petit peu plus cher, donc à offrir une rentabilité supplémentaire à la marque pour ce qu'elle est, parce qu'il la connaît. C'est le cas, on le voit, pour toutes les marques qu'on connaît, Apple, Intel, c'est même très fort, puisqu'ils ont réussi à devenir plus importants finalement que l'ordinateur, alors qu'ils n'en sont qu'un composant. Par rapport aux employés également, puisqu'une entreprise qui a une marque forte, qui a une identité forte et qui rayonne, qui donne envie d'y travailler, va attirer forcément des gens plus compétents, plus motivés, qui vont être contents de travailler pour cette marque, et donc avoir une entreprise globalement plus dynamique et globalement plus rentable. Vis-à-vis des actionnaires et même des créanciers de manière générale, une marque forte en qui on a confiance, les actionnaires, les banquiers vont accorder des taux préférentiels et une confiance supérieure à l'entreprise qui s'en trouvera renforcée d'un point de vue financier également. Et enfin, par rapport aux fournisseurs, prenons l'exemple d'Airbus ou de toute marque assez forte, il y a une certaine forme d'importance de cette entreprise qui fait qu'on peut plus facilement négocier les prix ou les coûts par rapport à la chaîne de fournisseurs et devenir finalement incontournable dans son marché. Donc par rapport à tous ces canaux-là, une marque forte est une assurance durable de profits supplémentaires pour les entreprises. Alors quelle est la logique de la marque ? Alors là, c'est résumé en 30 secondes des livres de marketing qui peuvent faire plusieurs milliers de pages. Les deux piliers fondamentaux, ce sont l'identité et la cohérence. Alors l'identité, c'est quoi ? C'est le fait qu'une marque, ce n'est pas juste un logo, un label ou un slogan, c'est une personne immatérielle à part entière, une véritable marque qui fonctionne. C'est quelque chose qui a une existence propre, c'est-à-dire quelque chose qui a une histoire, une culture. Si on prend l'exemple d'Hermès ici, Hermès est une des marques les plus anciennes que l'on connaît peut-être, et qui se repose sur toute une histoire qui lui donne une certaine légitimité qui date de la sellerie au début du siècle, si je ne m'abuse. C'est également une marque qui a des valeurs. Si on prend dans le cas de Disney, une marque s'associe à un certain nombre de valeurs. Vous prenez Disney, c'est le rêve, c'est les enfants, c'est la magie, c'est les princesses. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tout ce qui est lié finalement à la marque elle-même. Ça fait partie de son identité, de son être propre. Et enfin, c'est une personnalité dans tous ses aspects, c'est-à-dire même dans sa communication. Si vous prenez les pubs de Volkswagen depuis 20 ans, il y a toujours un petit côté cynique dans la marque Volkswagen. La marque, et donc ça donne des traits de personnalité jusque dans la communication de la marque, qui est donc quelque chose qui, plus sera légitime et complet comme être immatériel, plus sera cohérent et accepté par le client. La cohérence, c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire une fois que vous avez une marque qui est forte, qui existe, qui a une identité, tous ses produits, c'est-à-dire tout son aspect visible, ce qu'elle va vendre, les produits, les services, doivent être en cohérence avec toutes ses valeurs, ou au moins une partie des valeurs de base de la marque. Si vous prenez l'exemple de Virgin, dont les valeurs, vous pouvez les trouver sur le site internet, c'est le fun, c'est le bon rapport qualité-prix, c'est la qualité du service client. Quelle que soit la ligne de produits dans laquelle Virgin va vendre, vous allez retrouver ces valeurs. Donc dans les Virgin Megastore pour les magasins numériques, le Virgin Cola qui est une boisson gazéifiée, ça n'a rien à voir avec, bien évidemment des magasins. Vous avez encore Virgin Mobile, ce sont des forfaits de téléphone. Ou encore une business class qui peut être Virgin Atlantic. Dans tous les cas, même si ce sont des produits et services très différents, vous aurez une cohérence par rapport aux valeurs fondamentales de Virgin dont j'ai parlé, le fun, la qualité de service client et le bon rapport qualité-prix. Alors ça, c'est pour les marques commerciales. Maintenant, est-ce qu'on peut appliquer cette logique à un pays pour essayer d'utiliser les mêmes armes que les entreprises finalement pour se battre sur les différents marchés auxquels la France est confrontée? Alors un pays est-il une marque? D'un côté, un pays, il a bien un nom. Il a bien un slogan, quelque part, liberté, égalité, fraternité, c'est un slogan possible pour la France. Un logo, alors là, on peut se demander si c'est la Marianne, si c'est le drapeau, mais en tout cas, il y a des choses qui existent. Ensuite, un pays, bien évidemment, plus même qu'une marque commerciale, a évidemment une histoire, des valeurs qui sont légitimes et peut-être même une identité, même si on en est arrivé à se poser la question. Ensuite, la France, comme une marque commerciale, est en compétition à l'international, mais sur plusieurs marchés, pas seulement sur le marché des produits et services, le champagne français, les voitures françaises, le luxe à la française, tout ce que vous voulez, pas uniquement sur ce marché classique qui pourrait être comparable à une entreprise, également sur l'offre touristique. La France est en concurrence avec tout un nombre de pays pour attirer des touristes, pour qu'ils viennent dépenser sur le territoire national. L'offre d'investissement, la France se bat tous les jours, M. Torgemann ne le démentira pas, pour attirer des investisseurs qui vont venir créer de la valeur ajoutée sur notre territoire à partir de capitaux étrangers. Et enfin, sur l'offre culturelle, tout ce qui correspond au rayonnement culturel de la France, faire connaître notre langue dans le monde entier, faire connaître notre culture, les films, les ouvrages, les auteurs, les artistes, tout ce qui est en dehors finalement de l'économie classique, mais qui contribue quand même indirectement à l'activité économique sur notre territoire. De plus, il existe un effet pays d'origine qui a été mis en évidence par les chercheurs en marketing depuis une vingtaine d'années, qui montre qu'effectivement, quand un client prend une décision d'achat, il tient compte, consciemment ou inconsciemment, du pays d'origine dans lequel est fabriqué le produit. Et cela est d'autant plus vrai que le produit est cher, onéreux, que le produit est technologique et que le produit est durable. C'est un effet, par exemple, qui profite beaucoup en ce moment à l'Allemagne sur des produits technologiques comme les automobiles, par exemple. Et enfin, vous avez beaucoup de pays dans le monde qui se sont mis réellement à des démarches qu'ils appellent du nation branding. On trouve ça beaucoup sur Internet. C'est-à-dire réfléchir à une stratégie de marque comme une entreprise sur un pays. Vous avez la Suède, par exemple, qui a fait un travail depuis quelques années dans une certaine forme de consensus national pour définir ses valeurs, pour faire des partenariats stratégiques avec ses entreprises, pour bien définir son mode de communication, son mode d'action, de manière à développer leur territoire. Et la Suède est un pays qui a beaucoup réussi sur ce plan-là. Et bien sûr, dans beaucoup de pays, on en cite ici quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. En plus, l'environnement que j'ai présenté tout à l'heure est comparable, c'est-à-dire qu'une marque commerciale, si au lieu de prendre une marque commerciale, on prend la marque France, et bien quelque part, des clients, il y en a également dans les marchés que j'ai décrits, les touristes, les consommateurs de produits et de services, les investisseurs internationaux, les consommateurs de culture française au sens large. Des fournisseurs, la France a tout un tas de partenaires, évidemment, des autres pays, des entreprises, des ONG, des organisations qui fonctionnent avec elles. Les employés, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais on peut imaginer qu'un pays qui est fort, qui attire, il y en a beaucoup dans le monde actuellement, qui se place comme étant des pays dynamiques et qui vont attirer des gens d'autres pays ou dans lesquels les gens vont avoir envie d'être parce qu'on sent qu'il y a une bonne qualité de vie, on sent qu'il y a du dynamisme économique. C'est des pays qui, globalement, vont mieux réussir et vont réussir dans la compétition internationale à se fédérer pour combattre dans de meilleures conditions. Enfin, par rapport au marché, là, je ne vais pas faire de dessin, hein, on l'a vu avec la crise de l'euro, un pays qui a une marque forte, qui a une économie qui est bien gérée et qui donne confiance aux différents investisseurs est un pays qui réussit mieux que d'autres à se financer à bas coût, on va dire. Voilà, donc ça, c'est les différentes analogies qui tendent à faire croire qu'on peut considérer finalement un pays comme une marque commerciale. Alors, bien évidemment, il y a des limites à cette analogie que je présentais tout de suite. La première, c'est que contrairement à une marque commerciale qui agit purement sur le marché des biens et services, une marque pays agit sur différents types de marchés. Bien évidemment, ce n'est pas la même chose que de vendre du champagne, que d'attirer des touristes pour aller visiter un château de la Loire, que d'attirer des investisseurs pour investir en France, avoir des projets d'investissement, ou encore aller véhiculer la culture française à l'international. Donc c'est des marchés très différents qui ne se traitent pas du tout de la même manière et donc ça rend les choses beaucoup plus complexes. La deuxième chose, c'est que sur le marché des exportations, les effets sont indirects. On dit du champagne français ou de la parfumerie française. L'Oréal Paris, c'est peut-être Paris, mais c'est avant tout L'Oréal. Donc les effets sont indirects, sont toujours en second rideau derrière l'effet principal de la marque. Et donc il y a une nécessité d'évaluer l'effet indirect avant de pouvoir conclure éventuellement sur la participation de Paris ou de France à la valeur ajoutée qui est faite sur le territoire. Enfin, les acteurs sont multiples. Ce n'est pas comme une entreprise où vous avez tout le monde qui œuvre finalement, théoriquement, dans la même direction pour la marque de l'entreprise. Vous avez des intérêts divergents entre les populations, les entreprises, l'État, les associations, les collectivités, les journalistes, les hommes politiques. Enfin, c'est très compliqué. Il n'y a pas de pilotage des actions, il n'y a pas de direction marketing de la France, et ce serait impossible à imaginer. Donc ça rend aussi les choses plus compliquées en termes de cohérence. Voilà, il n'y a pas de cohérence de la marque. Personne ne s'assure en France que tout est cohérent avec les valeurs fondamentales qui ne sont d'ailleurs pas partagées par tout le monde. Et ce n'est pas forcément connu d'ailleurs. Et enfin, qui parle au nom de la France? Qui est l'ambassadeur de la France auprès des étrangers? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est l'État de manière générale? Est-ce que c'est une agence comme Atout France qui va promouvoir, donner une certaine image de la France pour attirer des touristes? Est-ce que c'est l'Agence française pour les investissements internationaux qui va vendre d'autres facettes de la France pour attirer des investisseurs? Est-ce que c'est encore une entreprise ou un PDG comme Carlos Ghosn qui va aller discuter pour s'implanter à l'étranger et vendre ses voitures? Est-ce que c'est Carrefour? Finalement, Carrefour, c'est aussi un grand ambassadeur de la France puisqu'il est implanté dans beaucoup de pays et il véhicule un certain nombre de valeurs françaises dans le monde. Ou est-ce que c'est enfin des stars françaises, des journalistes, des sportifs, des acteurs qui vont véhiculer aussi une image de la France? Ou enfin, est-ce que c'est tout simplement Monsieur Michu, qui est le touriste français de base qui va aller à l'étranger et qui va, par son comportement, véhiculer une certaine image de la France, bonne ou mauvaise, auprès des pays étrangers? Donc tout ça fait que les signaux de la marque France sont assez compliqués. Donc face à ces différentes questions, d'une part les arguments qui nous font penser que la France peut être considérée comme une marque commerciale, d'autre part les limites, nous ce qu'on a proposé pour l'étude, c'est finalement de trouver un modèle qui permette de ne tenir compte que des analogies et en essayant de prendre en compte les limites. Donc on a une approche qui est un petit peu différente des approches made in France, qui résonnent sur le marché intérieur, comment réagit le marché intérieur par rapport aux produits en fonction de s'ils sont conçus en France ou pas. Nous, on s'est posé vraiment la question de la France et son rayonnement. C'est-à-dire, on prend la France comme une boîte noire. On n'a pas cherché à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de la France, mais comment ça interagissait avec le reste du monde. Donc la France en tant que boîte noire. Et on a regardé trois types de flux qu'on a évoqués finalement précédemment, que sont les exportations de biens et services vers les étrangers, le tourisme, attirer les étrangers, investissements internationaux, attirer les investisseurs étrangers. Et on a essayé de comprendre et de calculer, et tout cela baignant bien sûr dans une forme de rayonnement qui est un petit peu tout ce que j'ai parlé, ce qui n'est pas purement économique, ce qui est le culturel, ce qui est le médiatique, ce qui est le politique, ce qui est l'influence, qui est un petit peu mou, et on va voir dans quelle mesure on peut le mesurer, et de comprendre comment tout ce qui est à l'extérieur, tout ce que les signaux que la France envoie en tant que marque, arrive finalement à rapatrier vers la France des capitaux, des choses qui créent de la valeur ajoutée, parce que la valeur ajoutée, finalement, c'est de l'emploi, finalement, c'est du dynamisme économique. Donc on étudie comment le signal France va vers l'étranger pour ramener du dynamisme économique de l'extérieur. C'est vraiment la démarche que nous avons eue. Donc ça, c'est le modèle, et je laisse Pierre-Louis nous expliquer comment on a finalement exploité ce modèle.
Alors effectivement, en partant du postulat que la France est une marque, on s'est dit, on va mettre une valeur dessus. Alors c'est pas seulement parce qu'on était matheux, c'est qu'on a vu que les entreprises le faisaient couramment. Alors les entreprises, elles ont commencé à le faire dans les années 80, elles faisaient des fusions, des acquisitions, et elles s'étaient rendues compte qu'en fait, qu'est-ce qu'elles achetaient souvent, c'était pas des usines, c'était pas tant des brevets souvent, souvent c'était que des marques. Et alors, les entreprises sont donc mises à calculer la valeur de leur marque pour faire des acquisitions. Elles se sont aussi mises à évaluer la valeur de leur marque pour voir un petit peu qu'est-ce que, en bourse, par exemple, elle valait. Alors, on se rend compte que, globalement, si vous prenez un certain nombre d'entreprises bien connues, une grande partie de leur valeur, en fait, est seulement représentée par leur marque. Alors, comme je disais, ça a eu le mérite de faire communiquer deux mondes, mettre une valeur sur une marque. D'un côté, les marketeurs qui font des bulles et des graphiques, et de l'autre côté, les responsables financiers qui, globalement, parlent en termes de ROCE, de rentabilité, TRI, etc. Et ça a permis de faire rencontrer ces deux mondes. C'est-à-dire qu'on a commencé à justifier les investissements qui étaient faits au nom de la marque, au nom du positionnement stratégique marketing, par une valeur, une création de valeur pour l'entreprise. Alors, il y a beaucoup de méthodes qui ont été développées pour calculer les valeurs de marque. À partir du moment où on dit que c'est une création de valeur, non, c'est basé sur une méthode qui est bien connue, qui s'appelle la méthode Interbrand, et qui est globalement compatible avec les normes comptables internationales. Globalement, alors je ne vais pas présenter en détail la méthode, mais schématiquement, c'est une méthode qui se construit en plusieurs temps, qui globalement essaie d'identifier quels sont les revenus qui sont dus à la marque. Alors, dans l'exemple, moi j'ai pris un groupe comme LVMH, hein, c'est un groupe qui va gérer un portefeuille de marques. Et si on dégage une des marques emblématiques françaises, d'ailleurs celle qui vaut le plus cher en France, on prend la marque Louis Vuitton, et on essaie d'identifier les revenus qui sont dus à la marque Louis Vuitton. Alors là, évidemment, ce n'est pas forcément très dur, c'est un peu mou. C'est-à-dire qu'on va se demander au niveau du consommateur, quand il prend sa décision d'achat, qu'est-ce qui est dû au fait que la marque, c'est Vuitton. Et on va regarder ce que la marque Vuitton véhicule comme valeur et quelles sont les valeurs sur lesquelles le client fait son choix. Et donc la contribution finalement de la marque à la création de valeur pour Louis Vuitton, c'est la part de la décision d'achat du consommateur qui est due au fait que la marque soit Vuitton. On s'amuse comme ça à faire des sommes actualisées de revenus dus à la marque en intégrant une analyse concurrentielle de la marque dans son environnement, hein, qui permet d'évaluer si la marque elle est forte dans son environnement, si elle a des perspectives de marché. Et donc on actualise avec un taux de force qu'on évalue ainsi de la marque, ce qui nous permet d'en déduire la valeur de la marque. Interbrand publie chaque année un classement des meilleures marques mondiales. Ça donne déjà quelques indices pour voir comment, en tout cas, les marques françaises se positionnent. Alors, on n'est pas dans le top 10. Il n'y a pas de marque française qui se situe dans le top 10. Hein, le champion étant Coca-Cola. Mais néanmoins, on a dans le top 100 un certain nombre de marques françaises. Et une tendance qu'on peut voir, c'est que les marques qui se détachent, c'est Louis Vuitton, c'est Chanel, c'est Hermès, c'est Cartier, c'est Mouette et Chandon et c'est Lancôme. Alors effectivement, parmi ceux-là, on retrouve d'autres marques, hein, comme AXA ou comme Danone, qui sont des marques, j'allais dire, un peu plus industrielles. Mais on peut déjà voir qu'il y a une forte tendance qui se dégage, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas tellement la poutre, l'acier et l'automobile par lequel la France se vend à l'étranger par ses marques commerciales, mais des marques sur des secteurs qui sont le luxe, qui sont l'agroalimentaire. Alors, on a essayé de raisonner un peu de la même façon sur la France. Alors, la France, déjà, c'est pas facile de segmenter. C'est se demander sur quels sont tous les marchés sur lesquels agit la marque France, c'est délicat. Déjà, on a fait une segmentation géographique. La France n'est pas vue de la même façon dans tous les pays du monde. Et d'ailleurs, se demander comment les autres nous voient, c'est une première démarche qui est très intéressante. Alors, on a globalement nous groupé par grandes zones. Alors, il y a des zones en blanc qui sont des zones, malheureusement, pour lesquelles la France n'a pas beaucoup d'échanges économiques, mais globalement, on a réussi à segmenter le monde dans certaines zones qui ont une image de la France assez proche. Au-delà de cette segmentation géographique, il faut évidemment faire une segmentation sectorielle. Comme Maxime l'a évoqué, la marque France, elle n'agit pas de la même façon sur tous les marchés. Il y a des marchés sur lesquels elle agit en direct. Typiquement, le tourisme ou les investissements, la France se vend en direct. Quand un investisseur décide de mettre son projet en France plutôt qu'en Allemagne, c'est parce que il y a un certain nombre d'arguments qui font que c'est la France qui a les arguments concurrentiels pour attirer le projet. Pareil pour un touriste. Un touriste qui choisit ses vacances à Paris, par rapport à Rome, c'est définitivement que ce qui l'intéresse à Paris est mieux qu'à Rome. Au contraire, quand il s'agit de marques commerciales qui sont françaises ou de secteurs d'exportation qui sont cautionnés finalement par la marque France, on voit bien que la marque France va venir en second rideau. Elle va venir en chapeau finalement. Et ça dépendra beaucoup de la stratégie marketing de l'entreprise. Il y a des entreprises qui s'en servent beaucoup, il y en a d'autres qui s'en servent pas du tout. Moi, j'ai passé un peu de temps en Asie. Il y a des snacks qui se vendent très bien, qui s'appellent Bistro Deli France. Alors forcément, là, on joue à plein pot la marque France. De l'autre côté, quand vous achetez une Renault à l'étranger, je suis pas sûr que Renault vende la marque France tout le temps. Ça dépend, s'il y a besoin, si c'est intéressant. Donc, on voit bien qu'il y a deux effets. Il y a les effets où la marque France va jouer en direct et puis d'autres secteurs où la marque France vient seulement en caution et ça dépend de la stratégie marketing de l'entreprise. Alors après, une fois qu'on a fait cet effort de segmentation, il faut évidemment conclure quelle est la contribution de la marque France à la création de valeur. Ça, c'est délicat. C'est là où, pour une marque Vuitton, on analyse comment se construit la décision d'achat du consommateur. On a un peu fonctionné pareil pour la marque France, c'est-à-dire qu'on s'est demandé, dans la décision d'achat des investisseurs et des touristes, qu'est-ce qui guide l'achat et en quoi la marque France elle vient jouer. On a fait la même chose pour les exportations. En gros, il y a trois catégories d'exportations. Il y a des secteurs pour lesquels les marques globalement et les marques pays ne jouent pas. Typiquement, vous achetez du blé, des matières premières, des secteurs peu technologiques, les marques jouent peu. Par contre, quand vous avez des secteurs à très forte valeur ajoutée, et là, la marque va jouer énormément dans les critères de décision, mais pour autant, vous avez des secteurs pour lesquels la marque France ne joue pas du tout. Typiquement, l'informatique, vous ne vendez rien sous le « made in France ». Et à l'opposé, il y a des secteurs pour lesquels la marque France vient justement jouer plein pot, une caution. Et les industriels sont capables d'ailleurs de vous dire écoute, moi je considère que ma bouteille de Bordeaux, pour un même cépage, elle va se vendre 30% plus cher que le même cépage australien. Et les industriels sont bien conscients de cet effet-là, surtout quand ils en jouent. Donc on a rencontré comme ça un certain nombre d'industriels qui sont représentatifs de l'industrie française et on a pu du coup en déduire les indices de contribution de la marque France. Puis enfin, il faut croiser ça, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une analyse concurrentielle de la marque France dans son environnement. Donc là, en gros, on s'est servi d'une étude qui est menée chaque année par un cabinet allemand, qui fait des sondages sur une vingtaine de pays auprès de plusieurs milliers de personnes, et qui va sonder donc, les marques de 20 pays sur un certain nombre de critères, sur 8 critères, qui sont les investissements, les gens qui habitent ces pays, les produits, la gouvernance, le tourisme. Et donc de ces critères-là, donc là vous avez l'exemple qui est la perception de la France, de l'Allemagne et des États-Unis par les Chinois. Donc on voit très bien que globalement, le pays qui s'en sort le mieux en moyenne, c'est l'Allemagne. Et donc on en a déduit des taux de force qui étaient différents effectivement pour l'Allemagne. Et là on voit que l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux en termes de risques portés par leur marque. Alors une fois qu'on a fait ce calcul, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors déjà l'assiette. Qu'est-ce que l'assiette? C'est les revenus qui sont affectables à la marque France, sur laquelle la marque France peut jouer. Globalement, c'est essentiellement des exportations, ça ne trompera personne. Il y a un petit peu d'investissement, on considère qu'effectivement, ça crée un peu de valeur ajoutée en France, les investissements, et puis un petit peu de tourisme, 7%. En gros, c'est à peu près la part du tourisme dans le PIB français. Si on regarde les revenus attribués à la marque France, une fois qu'on a passé au crible de qu'est-ce qui, dans la décision d'achat, dépend de la marque France, on voit que ça change totalement. C'est-à-dire que c'est essentiellement le tourisme et les investissements qui contribuent. Pourquoi? Voilà, c'est le petit graphique qui est en haut, on voit les taux de contribution. Donc en bleu, on ne le voit presque pas, c'est le taux de contribution moyen pour les exportations. La marque France joue en moyenne très peu. Elle joue beaucoup dans certains secteurs, mais dans l'immense majorité des secteurs, elle ne joue plus. Donc on a un taux de contribution qui est inférieur à 5%. Par contre, pour les exportations et le tourisme, on se rend compte qu'en fait que la marque France joue énormément. Elle vient porter une caution extrêmement importante et on flirte avec des taux de 80%. Ce qui explique que sur une valeur de marque, alors c'est la colonne de droite qui est autour de 300 milliards d'euros, on en a en gros 55% qui vient du tourisme, 35% qui vient des investissements et le reste seulement des exportations. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder par zone géographique comment est-ce qu'on crée de la valeur sur la marque France. Il y a déjà un certain nombre de pays où on voit bien que le tourisme est dominant. C'est les pays avec lesquels on a le moins d'échanges, typiquement les BRICS, l'Europe de l'Est et puis le reste du monde. Ces pays-là, ils connaissent la France surtout par le tourisme. Et c'est surtout avec le tourisme qu'on crée de la valeur avec la marque France. Et puis un certain nombre de pays pour lesquels on a des échanges économiques anciens, l'Amérique du Nord, le Japon, la Corée, l'Europe du Nord. Et on voit là qu'au contraire, c'est avec les investissements qu'on crée de la valeur. Et puis les autres pays, globalement, c'est les pays qui sont voisins. Donc ils font la moyenne et avec lesquels on a le plus d'échanges. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les pays émergents, les pays avec lesquels on a les relations commerciales les plus jeunes, on crée essentiellement de la valeur avec le tourisme. C'est-à-dire que les gens commencent à connaître la France à travers un voyage, essentiellement. Et puis pour les pays avec lesquels on a des relations économiques anciennes, on va construire de la valeur différemment, avec les investissements. D'où l'importance, et on y reviendra plus tard, de soigner le tourisme. Alors si on fait une présentation donc, de la valeur de marque par secteur exportateur cette fois-ci, là, sans surprise, on va retrouver des secteurs comme le vin, les spiritueux, les boissons, tout ce qui est cosmétique, parfumerie, bien avant l'automobile. Alors que c'est des secteurs pour lesquels, évidemment, en termes d'exportation, c'est sans commune mesure en termes de valeur. Et donc on va retrouver en fait les secteurs que j'ai mis en bleu, qui sont en gros les secteurs, j'oserais les appeler un peu mous, et puis les secteurs extrêmement technologiques, plus d'industries lourdes en vert. Et on voit qu'effectivement, il y a une grande majorité de la valeur de la marque France qu'on fait sur ces secteurs que je dirais mous. Alors ça, c'est un autre graphique qui montre en fait les valeurs de marque commerciales, un petit peu différents, qui sont calculées par le cabinet Interbrand. Et on retrouve exactement la même dichotomie entre les secteurs qu'on qualifierait de mous et ceux qu'on qualifierait de durs. Alors on peut faire quelques comparaisons de cette valeur de marque. Alors on l'a rapportée à l'habitant, et on s'amusait à le comparer à ce qu'on a considéré comme étant les champions de chaque secteur. Donc on a comparé en termes d'exportation la France à l'Allemagne, en termes d'investissement la France aux États-Unis et en termes de tourisme la France à l'Espagne. On voit qu'en termes d'exportation, effectivement, on a beaucoup de retard sur l'Allemagne. Le Made in Germany se vend très très bien comparé au Made in France. Par contre, en termes d'investissement, on est très bon. Et on nous revendique souvent d'être les champions du monde de l'investissement, et c'est pas faux. Par contre, et là où c'est plus surprenant, on revendique aussi qu'on est souvent les champions du monde du tourisme. Il se trouve qu'effectivement, on est les premiers en visite. Par contre, en création de valeur, pas forcément, on voit qu'on a beaucoup de retard sur l'Espagne. Alors, on ne cherche pas à stigmatiser, à dire que globalement, on est mauvais en termes d'exportation. Ce n'est pas notre message. Le message, c'est de dire que la France, elle construit la valeur autrement. On a comparé la valeur de la marque Allemagne à la valeur de la marque France. Alors seulement la partie exportation de la valeur de la marque Allemagne. Et bien on se rend compte qu'en fait, la France, ce qu'elle n'arrive pas à faire avec le Made in France, et bien elle le fait avec ses armes à elle, c'est-à-dire avec des investissements et avec du tourisme. Et elle arrive quasiment à compenser. Et donc, Maxime va vous présenter par la suite comment justement, compte tenu des forces et des faiblesses qu'on a pu identifier, comment est-ce qu'en France, on peut justement identifier une voie qui nous est propre.
Voilà. Avant de revenir donc sur cette voie propre à la France, petit retour rapide après avoir vu ces résultats sur les bases du marketing dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'approche à 360 degrés. Parce que finalement, un des avantages de cette étude un peu quantitative, c'est pas seulement de mesurer une valeur et les résultats qu'on a présentés, mais c'est aussi de donner une sorte de méthode, une manière de réfléchir sur la marque France. Parce que traditionnellement, on a quand même tendance à réfléchir en silo, avec d'un côté les investissements internationaux, d'un côté le tourisme, d'un côté les exportations, sans vraiment rapporter les uns aux autres et essayer de comprendre la cohérence entre toutes ces choses-là. On a bien vu les deux piliers de la marque, c'est l'identité et la cohérence. En France, l'identité, ce n'est pas nécessairement un problème. On l'a vu, la France est assez légitime, elle a son histoire, elle a ses valeurs, elle a un certain nombre de choses que tout le monde connaît et qui rayonnent pas mal à travers le monde. Ce qui manque, c'est un petit peu de la cohérence. Entre les acteurs, on l'a vu, mais également entre les secteurs. Donc ce qui fonde la valeur de la marque, c'est également la cohérence, c'est-à-dire utiliser les mêmes valeurs qui sont reconnues dans le monde entier, en tout cas celles qui le sont, pour créer de la valeur dans les différents secteurs qu'on a pu voir. Donc, quelle a été notre démarche? Finalement, une fois qu'on est arrivé au terme du calcul, c'était à peu près au mois d'avril, on a adressé en fait le résultat de nos calculs à l'ensemble des personnes qu'on a interrogées pendant notre étude. Donc, ça passe par des directeurs d'agences publiques, des industriels, des directeurs d'agences, des cabinets de tendance, des conseils de publicité, enfin pour tout un tas de gens, et qui nous ont fait des retours qui finalement vont un petit peu dans le même sens, et c'est ce qu'esquissait Pierre-Louis en conclusion de la deuxième partie, c'est que finalement la France, elle ne marche pas comme les autres pays en termes de marque. Parce qu'on reproche souvent à la France d'être en retard sur les exportations par rapport à l'Allemagne, on s'auto-flagelle assez souvent sur le sujet, alors qu'en fait, ce que nous ont dit les gens, c'est pourquoi ne pas accepter finalement que la France est différente et qu'elle a plus de réussite dans sa capacité à attirer au sens large que dans sa capacité à projeter ses produits et ses services. Donc, alors la dernière partie, on va passer un petit peu vite, mais disons que l'idée, c'est d'essayer de montrer qu'on peut avoir une démarche de marque pour la France, comme le ferait une entreprise. Et comment fonctionne une entreprise pour faire une démarche de marque? Quand elle veut créer ou renforcer une marque, elle commence par identifier des valeurs de cœur. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est un exemple. C'est influencé par ce que les gens nous ont dit, parce qu'ils ont retenu certaines choses dans ce qu'on a écrit. Bien évidemment, si une vraie démarche de marque était faite au niveau français, il faudrait avoir une démarche de réflexion un peu plus poussée sur quelles valeurs on choisit en fonction de quel secteur on souhaite promouvoir, en fonction de quel message on souhaite passer. Nous, on a cherché quelque chose qui était légitime et a priori assez évident par rapport à la France. Donc on s'est dit, on prend trois valeurs de cœur que les gens ont reconnues comme étant légitimes, et on va vous montrer comment, dans les différents secteurs, ça peut fonctionner en meilleure cohérence. Un sujet sur lequel on va revenir, c'est un pays responsable et durable, on va y revenir. Et enfin, le volet qui peut-être fait le plus consensus, c'est que c'est un pays raffiné et qui fait rêver. En tout cas, les Japonais qui sont jamais venus en France en sont parfaitement convaincus. Et donc, à partir de ces trois valeurs de cœur, finalement, construire cette cohérence autour des trois axes. Au niveau des exportations, travailler sur l'axe qui est la griffe française, c'est-à-dire le petit côté français dans tous les produits exportés, la gastronomie, le vin, la mode, le luxe, tout ça qui fait la marque de la France, la griffe. Du côté des investissements, présenter la France comme une terre d'accueil, terre de qualité de vie, terre qui fait rêver, terre dans laquelle on a envie d'être, parce que justement c'est un pays agréable à vivre. Et pour le tourisme, une France authentique qu'on a envie de visiter, mais qui est aussi authentique, légitime, qui a sa patrimoine, sa culture. Et finalement, avec ces trois valeurs de cœur, ces trois approches des secteurs paraissent cohérentes parce qu'elles s'appuient sur les mêmes valeurs, de la même manière qu'on l'a vu pour la marque commerciale. Alors ça, c'est le cadre général, je le répète, qui n'est qu'un exemple, qui ne recouvre pas forcément tous les secteurs, pas tous les produits, mais qui est une façon d'aborder le sujet. Ce que je vais vous montrer, c'est que c'est un message qui est légitime par rapport à ce qu'est la France. Pourquoi? Parce que la France a un certain nombre de qualités qui sont reconnues. La gastronomie, ça personne ne doute dans le monde que la France a une certaine forme de qualité dans sa gastronomie et l'art de vivre. Même chose dans les vins, les spiritueux et toute la culture qui va avec. Dans la mode, dans ce qu'on peut appeler un peu l'authenticité des marques, l'histoire liée aux grandes marques de luxe françaises, quelles qu'elles soient, et le luxe de manière plus générale. La parfumerie, la cosmétique, tous ces secteurs-là. Ce que montrent ces petites photos qui se dispersent dans les différents secteurs, c'est que ces points forts, comme on vient de voir, la gastronomie, ne jouent pas seulement en matière d'exportation. Ce n'est pas parce qu'on exporte du foie gras uniquement, mais c'est aussi parce que les gens, en tant que touristes, viennent et apprécient la même chose. C'est parce que les gens, en tant qu'investisseurs, les investisseurs vont aussi venir vivre en France, vont avoir des gens expatriés qui vont profiter aussi de ces choses-là. Donc c'est des choses qui jouent dans les trois secteurs de façon cohérente sur toute l'approche qu'on a présentée à 360 degrés. C'est pour ça que ça se disperse dans les différentes cases. On regarde vraiment l'approche circulaire. La qualité de vie également. La qualité de vie, vous avez les petites maisons à Saint-Tropez, tout ça, c'est sympa. Le tourisme. Et bon, là, c'est quelque chose qui représente la diversité régionale, l'authenticité. La France, ce n'est pas que Paris. La France, c'est une diversité régionale. Enfin, un pays dans lequel tout le monde peut trouver une région à son goût. Mais ça n'empêche pas que les fondamentaux de la marque France qu'ont nos concurrents directs sont là également. C'est-à-dire qu'on a des trains d'infrastructures, des transports qui n'ont rien à envier à ceux de nos voisins. Également des ingénieurs, mais de manière plus générale, des formations de très bon niveau, des enseignements de très bon niveau. Je précise que je ne suis pas polytechnicien, ce n'est pas pour faire de la pub. Et en termes de rayonnement, on a également des agences qui sont là, qui existent et qui font déjà du bon travail pour promouvoir dans les différents secteurs, mais qui ne travaillent pas toujours toutes, même si c'est en train de changer, en cohérence sur les différents secteurs. Ubifrance, qui se charge de promouvoir les entreprises à l'international, de les aider à s'implanter et de les aider à comprendre les marchés internationaux. L'Agence française pour les investissements internationaux, qui essaie d'attirer les investisseurs. Atout France, qui essaie de promouvoir le tourisme et le territoire français à l'international. Et puis, vous avez bien sûr tous les ambassadeurs de la France, nos sportifs, qui gagnent ou pas, et tous les artistes dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et tout le réseau diplomatique, il ne faut pas oublier, qui est très important, les ambassades, puisque ce sont souvent eux les pionniers dans les pays émergents, qui sont les premiers à donner une image de la France auprès des nouvelles classes émergentes, des pays, des BRIC notamment. Et enfin, des messages qui passent à travers des marques internationales. Par exemple, quand Renault se pose comme un des premiers constructeurs à vouloir faire une voiture électrique grand public, eh bien, il véhicule quelque part aussi un message par rapport à l'idée de l'expérience France que vous présentez tout à l'heure. Donc ça, c'est un positionnement qui est légitime par rapport aux forces de la France. Voilà, parce que là, en fait, c'est une analyse SWOT, comme disent nos amis les consultants, c'est-à-dire une analyse qui regarde les forces, faiblesses, opportunités et risques de la marque par rapport au projet que je vous ai présenté. Donc c'est un message qui se base sur les forces, mais qui est légitime, mais qui est également pertinent par rapport aux tendances. On vous l'a dit en introduction, la troisième étape, c'est vraiment de regarder est-ce que ce positionnement par rapport aux grandes tendances de consommation mondiale est pertinent, c'est-à-dire qu'il a réellement un avenir. Alors la réponse sur ce secteur est oui, en grande partie, vu qu'on a consulté des cabinets de tendance, on a bien regardé quelles étaient les grandes tendances mondiales de consommation. Et c'est vrai qu'avec l'émergence des nouvelles classes aisées dans les pays émergents, il y a un énorme marché pour tous les produits de luxe. On voit bien les explosions des marchés, par exemple en Chine, en Inde, au Brésil, sur les produits de luxe avec les nouveaux pays émergents. Le développement durable, également, là c'est une tendance plutôt des sociétés, je dirais, développées, de vouloir revenir un petit peu aux sources, avoir des produits plus authentiques. Alors il y a le bio, il y a tout ce qu'on appelle les industries du bien-être. Il y a vraiment une volonté dans le monde des produits des pays développés de revenir vers quelque chose de plus authentique, de plus durable. Et en France, on l'a bien vu, le côté écologique et développement durable qui progresse énormément, donc sur lequel il est important de se positionner. La traçabilité, c'est un petit peu lié, c'est une tendance du marché actuellement. Les gens veulent savoir dans ce qu'ils achètent, exactement ce qu'il y a, d'où ça vient, qui le fait, avec quoi. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut se positionner aussi, c'est très important. L'authenticité, hein, donc si on dit la France est authentique, c'est vrai parce qu'il y a une recherche d'authenticité dans tous les produits, dans toutes les expériences, quelles qu'elles soient, de tourisme, d'investissement également. La recherche de qualité de vie, je crois que tout le monde connaît bien ça en étant parisien. Et du point de vue de nos amis les ambassadeurs, et du ministère des Affaires étrangères de manière générale, il y a une volonté actuelle d'essayer de mesurer mieux l'impact de la politique de rayonnement française. Plus mesurer simplement en termes de budget qu'on alloue à des réseaux diplomatiques ou à des soutiens à différentes alliances, c'est plutôt d'essayer vraiment de voir en fonction de ce qu'on met comme argent, quel retour sur investissement on a et quel est réellement l'impact des différentes actions de rayonnement qu'on peut avoir, tant au point de vue diplomatique que sur tous les types de rayonnement. Donc ça, c'est intéressant de se poser la question également. Et enfin, avant d'ouvrir le débat, on se pose la question également des faiblesses, parce qu'il y a un certain nombre de faiblesses sur lesquelles la France est en train soit de perdre du terrain ou a un risque de perdre du terrain et sur lesquelles il faut vraiment regarder ce qui se passe vis-à-vis de ce projet-là. Donc en bleu, c'est plutôt les exportations. Ce dont parlait Pierre-Louis tout à l'heure, c'est qu'en France, il y a quand même quelque chose de bien ancré dans notre culture qui veut qu'on refuse finalement ce qu'est la France. On veut toujours que la France soit un pays très technologique, soit un pays dans lequel il y a le TGV, le nucléaire, etc. Eh bien, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est qu'il faut que la France soit un pays technologique, mais sans renier, finalement, ce qui aussi fait le succès de la France, c'est-à-dire son côté un peu plus léger, avec tous les secteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, qui finalement apportent aussi énormément de valeur en termes d'exportation et de valeur ajoutée en France, qui sont souvent des secteurs d'ailleurs beaucoup moins délocalisés que les secteurs industriels classiques. Coopération à l'export, vous savez, l'effet chassé en meute, l'effet union des PME, sur laquelle la France est moins forte que son partenaire allemand. Les classes créatives, il y a une tradition aussi en France qui est de segmenter, d'isoler un peu les ingénieurs, des designers, des écoles de commerce et tout ça. Donc c'est important pour avoir des entreprises qui sont capables d'innover et capables de se plonger dans la compétition internationale, de rapprocher tous ces gens-là pour qu'ils vivent ensemble, un peu comme la Silicon Valley ou tous les clusters de classes créatives qui fonctionnent bien dans le monde, de manière finalement à pouvoir suivre ces tendances dans la logique de ce qui a été proposé. En termes de tourisme également, on se repose souvent sur ses lauriers en termes de tourisme, comme Pierre-Louis l'a rappelé, en disant on est la première destination mondiale, donc où est la question quoi. En fait, il y a une forte concurrence sur le domaine du tourisme. La Chine est en train d'émerger très fortement avec des investissements immobiliers très conséquents. La France perd du terrain en termes de dépenses par rapport, par exemple, à l'Espagne ou aux États-Unis. Donc, il est important de prendre conscience de ces choses-là. La qualité de service, hein, toute la liste noire du tourisme que tout le monde connaît bien, entre les RER, les garçons de café, les taxis, il y a tout un tas de choses qui sont connues. Voilà, donc je passe rapidement sur les... au niveau des investissements internationaux. On en parlait avant le début de la séance, mais l'image sociale de la France... a aussi des conséquences sur les investissements internationaux, la compétitivité coût, sur laquelle bon, il y a des réflexions à avoir, la pratique de l'anglais, qui influe aussi sur notre attractivité en termes de terres d'investissement, et de manière générale, sur l'aspect rayonnement, la perte d'influence de la France, donc là, le volet diplomatique dont on commençait à esquisser, la mesure d'impact des politiques de rayonnement, la cohérence de l'image, hein, donc pas seulement la cohérence entre les secteurs, mais la cohérence aussi dans la communication et dans le rayonnement qu'on peut avoir, donc tout le côté un peu publicité de la France. Et globalement, réfléchir sur le déficit stratégique, sur la marque France, comment on réfléchit, quels sont les grands axes de réflexion, ça c'est une réflexion un peu plus générale. Donc voilà, là on a voulu dans ce dernier slide mettre en lumière un petit peu quels étaient les points sur lesquels il fallait porter une attention particulière si on devait mettre en place un projet basé sur l'expérience France. Donc, ce qu'on vous a présenté finalement c'est une voie, c'est-à-dire une méthode, une façon de s'y prendre, un début de réflexion, mais un véritable projet de marque France serait quelque chose d'assez ambitieux et d'assez long à mettre en place, qui, comme dans le cas d'une entreprise, devrait être portée par un niveau assez haut dans l'État. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise dans laquelle c'est le sous-sous-directeur du marketing qui s'occupe de la marque, ça ne peut pas fonctionner. Il y a des exemples célèbres en France dans lesquels le marketing n'a pas été à la hauteur des espérances. Donc c'est important que ce soit pris par le plus haut niveau de l'État, parce que c'est le seul niveau qui peut effectivement prendre les bonnes décisions pour faire entrer en cohérence les différents aspects de cette marque. Il faut aussi que ce soit basé sur une concertation nationale, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine forme de consensus sur les valeurs qui sont choisies, sur les actions qui sont menées, et qui inclut un petit peu toutes les sphères de la population dans les secteurs qu'on a évoqués. Et enfin, finalement, la valeur de marque qu'on a proposée, ça pourrait être une forme d'indicateur, donc il faudrait que ce soit repris, amélioré, complété, qu'il y ait des études qui soient faites pour ça, puisqu'à chaque fois qu'on lance une politique de marque, il faut avoir un moyen de la mesurer, et de la mesurer dans toutes ses composantes. Et finalement, cet indicateur de la marque, c'est un moyen, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est un moyen de vérifier que dans les différents secteurs, en fonction des politiques qui sont mises en place, on progresse effectivement en voyant la valeur de marque augmenter ou diminuer en fonction des secteurs. Donc ça pourrait être un outil de mesure. Voilà, j'en termine. Je vous remercie.